session théologique par le père Philippe à Saint-Jodard le 8 août 1988, conférence du soir.
Tout au cours, première question. Tout au cours de l'histoire de l'humanité, a-t-il existé réellement des tentatives scientifiques de formulation de l'existence ou de la non-existence de Dieu? Sûrement pas. Il y a eu des traditions religieuses. C'est très différent. Au fond, des tentatives scientifiques de formulation de l'existence ou de la non-existence de Dieu, c'est assez récent. Ça existait en philosophie grecque, dans l'Inde aussi. Je ne connais pas beaucoup, mais Olivier Lacombe, qui est un grand ami, est un grand spécialiste. Et ça existait en face toujours des objections de ceux qui rejeter le point de vue des traditions religieuses. Vous voyez, au fond, j'allais presque dire, formuler des tentatives d'exprimer les voies d'accès vis-à-vis de Dieu, ce sont presque toujours commencés par des perspectives apologétiques de réponse. Vous voyez, en terre chrétienne, ça a commencé par des perspectives aussi apologétiques. Saint Justin. Essayer de montrer comment prétendre que Dieu n'existe pas, mais ça n'a pas de signification. Et par le fait même, on donne d'autres voies. Et si on est attentif, on voit que saint Thomas, dans ses cinq voies, résume pratiquement tout ce qui a été donné avant lui, en laissant tomber certaines voies qu'il juge ne pas reprendre, entre autres celle de saint Anselme. On pourra revenir là-dessus. Les miracles. Paradoxe apparent au réel. La religion catholique voit une manifestation concrète de l'Esprit Saint dans ce qu'elle nomme les miracles. Oui, une manifestation de l'Esprit Saint, de la toute-puissance de Dieu plutôt. Les miracles, c'est la manifestation de la toute-puissance de Dieu. Pas de l'Esprit Saint comme personne. C'est d'ordre charismatique. Alors, parce qu'on dit charismatique, c'est l'Esprit Saint, attention. De fait, le mouvement charismatique d'aujourd'hui est très lié à l'Esprit Saint, mais ce qu'on appelle les charismes, anciennement, c'est-à-dire les miracles, ne sont pas liés explicitement à l'Esprit Saint, mais à la toute-puissance de Dieu. C'est beaucoup plus relié au mystère de la création. Bien que très prudente dans ses reconnaissances, l'Église en appelle pas moins à la rescousse, la communauté scientifique, afin qu'elle la renseigne sur les faits objectifs. Oui, cette commission des médecins à Rome, les mauvaises langues, disent que depuis qu'il y a la commission des savants, il n'y a plus de miracle. J'ai entendu dire ça, et surtout les groupes charismatiques. C'est évident que les groupes charismatiques ont des tas de miracles comparativement, relativement peu de miracles à Lourdes. depuis la commission scientifique. C'est curieux, ces choses-là. Je ne conclus rien, hein, je vous dis les faits. Interprétez comme vous voulez. Vous voyez, faisons attention. La commission scientifique, c'est une commission scientifique d'abord de médecins. Pas de biologistes, de médecins. Pour constater la maladie. Et constater que la guérison subite, de telle façon, ne peut pas s'expliquer selon les lois normales. Donc, voyez, les médecins, c'est un art, c'est une science. Et on les emploie pour juger si, oui ou non, il y a intervention de la toute-puissance de Dieu. Autant qu'on peut le dire. C'est un cas très particulier. Mais ce n'est pas du tout ce que je vous disais. Je me suis placé, moi, par rapport à l'origine de notre monde, de la vie, de l'homme, de l'esprit, du péché. Vous voyez ? Là, c'est, on constate un fait et on se dit, est-ce que ce fait constaté est-il ou non explicable par la science ? Est-il explicable par la nature humaine ? Vous voyez ? C'est toujours très difficile, le reste, hein, de le dire de façon absolue. Vous savez, quand les charismatiques disent au miracle, le miracle, avec notre cher père Tardif, c'est très difficile. Il n'y a pas de commission scientifique, là. Je crois que les charismatiques ne les supporteraient pas. Je crois. Non, mais non, c'est pas fait pour ça. Il y a quelque chose de vrai. C'est très délicat. Alors, on pourra, si vous le voulez, rentrer dans cette question-là. Ce n'est pas directement notre sujet. C'est pour ça que je laisse un peu. Alors là, c'est directement notre sujet. Hein. Pourriez-vous préciser la position du père Teilhard de Chardin dans le domaine de l'évolution, de la création, et aussi son utilisation aujourd'hui? L'évolution contredit-elle la genèse? C'est très bien, j'allais en parler, donc on devance, c'est parfait. Si l'esprit, qui par définition est immatériel, ne peut évoluer, qu'en est-il du psychisme et du langage? La solidarité ontologique entre l'homme et le cosmos a-t-elle disparu? L'Esprit Saint donné aux hommes permet-il de la retrouver? Alors, là, des petites questions très intéressantes. Je vous ai dit, parce que c'est vrai, qu'aujourd'hui, beaucoup de théologiens, je n'ai pas dit tous, mais beaucoup, n'aiment plus de parler de la création. Et c'est pour ça qu'on était parti un peu de là. Faut-il prendre cette position ou pas? Est-ce que ça a un sens aujourd'hui de se dire il y a un problème fondamental auquel nous devons réfléchir, le problème de la création? De fait, ces théologiens ne parlent plus du problème de la création pour deux raisons. D'une part, le problème de l'évolution. D'autre part, l'explication scientifique de l'origine du monde. C'est à cause de cela que j'ai pris le grand détour pour vous montrer comment les traditions religieuses, d'une manière très particulière, posaient toutes le problème de la création, de façon très diverse. Et comment aussi les traditions religieuses parlent de la fin dernière. Comment notre univers va-t-il se terminer? Oui, l'alpha et l'oméga. Les traditions religieuses en parlent. De fait, historiquement, la philosophie grecque a voulu regarder si ces traditions religieuses étaient de purs mythes imaginatifs ou avaient un fondement. La philosophie grecque ne s'est pas du tout développée en sept contrats des traditions religieuses, mais toujours en essayant de regarder si ces traditions religieuses pouvaient être acceptées pour une intelligence qui réfléchit, ou inacceptables. C'est de fait comme ça que toute la philosophie grecque s'est développée face à ce problème. C'est quand même très curieux et très intéressant de voir que la philosophie, de fait, à regarder d'une part l'origine de l'univers et d'autre part la finalité de l'homme. Et ça, c'est toute la tradition philosophique grecque est commandée par cela. Chez les pères de l'Église et chez les grands théologiens, on retrouve d'une manière tout autre un problème analogue. Je dis d'une manière tout autre puisque ce n'est plus à partir des traditions religieuses, mais à partir de la révélation. Et c'est pour ça que je vous disais, il fallait toujours bien distinguer, pour nous, et c'est très important, la tradition religieuse, foi, philosophie, science. Je crois ça capital pour nous, aujourd'hui, de bien distinguer les niveaux d'intelligibilité de tradition religieuse, foi, philosophie, science. Avec la philosophie et la foi, on mettra la théologie scientifique de saint Thomas. Un peu le lien avec les deux. La théologie est un mixte. C'est pas une source. La foi est source, la philosophie est source. Donc la théologie implique les deux. Puis alors, les sciences modernes, qui, de fait, la philosophie étant mise en veilleux, la théologie suspendant ses audaces, la science moderne va s'emparer du problème de la création. C'est très net. C'est-à-dire le problème de l'origine. En réalité, ce ne sera plus la création. Le problème de l'origine de l'univers, de la vie, de l'homme, et du péché. C'est la science, les sciences modernes. Toute une série de sciences modernes vont être mobilisées pour ça. Donc, le problème se pose à nous, et ça, il est très important. Je crois qu'on ne peut pas, si vraiment on veut réfléchir un peu sur ces questions, on ne peut pas ne pas réfléchir sur ces questions aujourd'hui. Parce que les solutions sont extrêmement curieuses. Vous comprenez, quand la science moderne se mêle pour expliquer l'origine de l'univers, est-ce acceptable pour un croyant? L'origine de la vie, l'origine de l'homme et du péché. Il faut se poser les questions. Alors, je prenais le taureau par les cornes. ce que j'aime bien, c'est de se poser la question, est-ce que la science moderne peut résoudre le problème de l'origine? C'est une très grave question. Et on doit se la poser. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec ce que je dis. Il ne faut jamais demander ça à des intellectuels que vous êtes, n'est-ce pas ? Jamais se poser comme ça la question. Il faut simplement donner une solution, puis dire, allez-y, faites vos jeux. Si vous restez avec la science moderne, mais restez-y. Je n'ai rien contre. Je dis que je ne suis pas d'accord. Et je donne les raisons. Je dis la science moderne, telle qu'elle est construite, ne peut pas résoudre le problème de l'origine du monde, de l'origine de la vie, de l'origine de l'homme, de l'origine du péché. Je crois que ce sont les graves questions qui sont posées. Pourquoi ? Parce que la science établit des lois. La science demeure dans la relativité. La science n'atteint pas l'absolu. Or, l'origine, c'est un principe ou une cause. C'est une origine, c'est une source. C'est un point de départ absolu. Si je prends origine au grand sens. Ça, c'est la raison, vous voyez, profonde, sur laquelle on doit réfléchir, hein. Et je comprends très bien que quand je vous dis ça comme ça, c'est un peu rapide. Oui. Croyez, j'ai beaucoup réfléchi. N'est-ce pas ? Parce que je dis toujours que j'ai un privilège. Un privilège. Je suis le plus vieux professeur de philosophie de France. Et je crois que du monde. Je crois. Parce que j'enseigne la philosophie depuis 1938. C'est pas si mal. Hein ? Et je n'ai jamais cessé. Parce qu'ordinairement, il y a des... jamais cessé. Une fois que c'est terminé d'un côté, ça renoue de l'autre côté, vous voyez ? Et quand j'ai dit au Saint-Père, limite d'âge pour Fribourg. Oh, ça peur, c'est que la limite d'âge. Limite d'âge. Pour la philosophie. C'est à ce moment-là qu'on devient sage. Là, je dis oui, mais ça fait rien de limite d'âge pour le citoyen helvétique. Le fonctionnaire helvétique. Quand on enseigne à l'université de Fribourg, on est un fonctionnaire helvétique. Là, il y a une limite d'âge. On continue. En dehors. Croyez bien que c'est un des problèmes majeurs de notre monde d'aujourd'hui. Alors, on peut très bien dire, je ne peux pas le résoudre. Donc, je me mets à la suite de telle ou telle autorité. C'est très valable, ça, momentanément. Quand on est jeune, c'est ordinairement ce qu'il faut faire, hein. Parce que quand on veut trop résoudre tout soi-même tout de suite, on risque de tomber dans des ornières. Tandis que quand on s'appuie sur l'autorité, on n'est pas sur une ornière. On n'est peut-être pas sur une bonne autorité, mais on s'appuie sur une autorité. Ce n'est pas une ornière. Et puis on est beaucoup plus libre pour ensuite essayer de comprendre. Vous voyez, mais ça, je voudrais que vous compreniez ça, parce que ça, ça me semble capital. Oui, je dis, la science moderne, et j'ai énuméré toutes les sciences tout à l'heure, je ne reprends pas, ne peut pas résoudre le problème de l'origine de l'univers, de la vie, de l'homme, du péché. C'est-à-dire, qui va résoudre ça ? Quand même intéressant. Qui va résoudre ça ? La philosophie. Une philosophie réaliste qui va jusqu'à la métaphysique. Elle parler de l'origine de notre univers, de la vie, de l'homme et du péché. Et en plus de la philosophie, la foi. Donc, vous avez quand même deux réponses tout à fait différentes. Hein ? Si ces deux réponses coïncident, il y a des chances qu'on soit en face de quelque chose de vrai. Puisque pour celui qui suit la démarche philosophique, il n'a pas besoin de confirmation. C'est l'immense avantage du philosophe. C'est qu'il a une tenue royale. C'est vrai. C'est l'autonomie de l'intelligence. L'intelligence qui pousse jusqu'au bout. Une intelligence qui s'intéresse à l'homme. Puisque le philosophe s'intéresse à l'homme, comme je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'il peut et qu'il doit se poser la question de l'origine. Le philosophe n'a pas besoin, comprenez bien, comme philosophe, il n'a pas besoin de la foi. Mais comme homme, le philosophe comme homme est respectueux de la foi. Donc, il peut, s'il est croyant, et s'il n'est pas croyant, il écoute le croyant. Qu'est-ce que dit la révélation sur l'origine du monde, de l'univers, l'origine de l'homme, l'origine de la vie, et ainsi de suite. Vous voyez, on est arrivé là ce soir. Hein ? J'espère que vous voyez bien ça. Alors, si vous êtes disposé, on peut peut-être aller encore un peu plus... Alors, avant d'aller un peu plus loin, ça c'est la science. La position de l'évolution, puisque c'est Teilhard. C'est un très grave problème, le problème de l'évolution. Il y a quelques années, c'est déjà vieux, puisque c'était... l'année de la proclamation du dogme de l'Assomption, 1950. J'avais été invité au Canada, les alliances franco-canadiennes, pour aller pendant trois mois, donner des cours à Québec, à l'Université de Laval. De là à Montréal, on faisait toute une petite tournée comme ça. C'était très bien, c'était très intéressant. Vous pouvez échanger un peu et voir d'autres têtes. On m'a donné là un gros livre, une thèse qui venait de paraître. Doctrine de l'évolution. Doctrine. C'est de Otis. Doctrine de l'évolution du point de vue philosophique et théologique. Avec la préface de celui qui soutenait directeur de thèse, qui était celui qui m'avait invité. Situation toujours très tragique. Quand on doit faire un commentaire, du moins un compte-rendu d'un travail comme celui-là, vis-à-vis de quelqu'un qui était un ami, c'était le cher Thomas de Coninck, le cher Charles de Coninck, un flamand merveilleux, que j'aimais beaucoup. Il était venu me voir à Fribourg avant de m'inviter. Il était venu me voir à Fribourg. Et il me disait, je suis dans une année sabbatique, alors on m'invite dans les divers, je vais visiter les diverses universités, voir ce qui se passe. Puis on me demande tout le temps, quel est le bouquin que vous êtes en train d'écrire? Je réponds, non, j'écris pas de bouquin. Je cherche la vérité. Et je pense à l'eau. Qu'est-ce que c'est que l'eau? Alors, quand je dis ça, je vois que les têtes de ces différents professeurs de philosophie disent il est complètement fou. Complètement fou. Qu'est-ce que c'est que l'eau? On le sait bien, regardez la chimie, quoi. Ou bien entendez Saint François. Hein, notre sœur l'eau. Enfin, tu avais la même chose, hein. L'attitude de Saint-François par rapport à l'eau et l'attitude du chimiste. Et l'attitude de l'homme faisant un pèlerinage à Lourdes et prenant l'eau de Lourdes. C'est encore autre chose, hein. Quand vous buvez de l'eau de Lourdes, vous n'avez pas la définition de l'eau au niveau chimique dans la tête ou dans le cœur. Je me souviens de la réflexion d'une jeune médecin très bonne chrétienne allant à Lourdes en disant, première année où je commence à exercer ma médecine, je confie ça à la Vierge Marie. Et elle s'était inscrite pour les hôpitaux. Alors dans les hôpitaux, vous savez, à Lourdes, faut voir, hein, la hiérarchie dans les hôpitaux de Lourdes n'est pas la même que dans l'hôpital Foch. Pas du tout. Ou dans les hôpitaux de Paris, ou n'importe où. C'est une hiérarchie très particulière. Hein. Alors elle commence, comme elle faisait d'habitude, quoi, à vouloir purifier sa seringue avant de s'en servir. Alors, un gendarme se précipite sur elle, un adjudant se précipite sur elle, dit, ah, madame, ou docteur, ici, on purifie tout avec l'eau de Lourdes. Qu'est-ce que vous dites? Purifie tout avec l'eau de Lourdes? Mais non, il faut purifier quand même les seringues. Ah non, non, non. Non, 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 l'eau de Lourdes. Bien obligé d'obéir, hein. Contre son sens scientifique et l'application scientifique. Je vous raconte exactement comme elle me l'a raconté. C'est une très bonne histoire, je trouve. Elle l'a fait, parce qu'elle était bien obligée. Elle était volontaire. Autrement, elle aurait mis à la porte, parce qu'elle aurait scandalisé. Elle a montré aux yeux de tous que l'eau de l'autre n'était pas pure. Alors elle a voulu avoir le cœur net. Elle s'est mise à analyser l'eau de Lourdes. Elle est pure, cette eau. C'est invraisemblable. Alors elle me dit, mais c'est ça le grand miracle de Lourdes. Miracle permanent, cette eau est pure. Alors que partout ailleurs, il faut purifier. Pas besoin de purifier les seringues autrement que par l'eau de Lourdes. Pour elle, c'était un choc. On voit très bien. Vous voyez, c'est intéressant. La foi, la dévotion, la science, tout ça, dans le même terrain d'atterrissage. C'était dans la même intelligence d'un jeune médecin tout désireux de bien faire les choses, avec un très grand dévouement, mais de bien faire, respecter l'intelligibilité des traditions religieuses. Ben, l'eau de Lourdes, tradition religieuse quand même, hein. C'est vrai, c'est pas une question de foi. Jamais dit, vous êtes obligé de croire que l'eau de Lourdes est pure. Pas du tout. Tradition religieuse. Tradition religieuse, ajoutons, pour la rendre un peu plus intéressante, chrétienne. vous allez vous baigner à l'Aude? Ça relève de quoi? Vous le faites parce que tout le monde le fait? Parce que le grand-père a dit, faut y aller, hein, ça te fera du bien. Ou bien parce que la mère a dit, c'est, faut le faire. Ou bien parce qu'un ami le dit. Pourquoi le faites-vous? Ça relève des traditions religieuses chrétiennes. Ça relève pas de la foi, quand même. Ah non, non, non. Ah non, ça relève pas de la foi. Ça relève des traditions religieuses chrétiennes. Haute-Lourdes. Le philosophe, qu'est-ce qu'il peut dire sur l'Haute-Lourdes? Ah, ça sort d'une source. Source profonde. Oui, oui, elle doit être très agréable à boire, très fraîche, oui. Elle doit être pure, mais toute source n'est pas nécessairement absolument pure. Donc il ne peut rien dire. Et le savant, chaque fois il faut vérifier. Chaque fois il faut la purifier. C'est ce que dira le savant. Il ne peut pas dire autre chose, le savant. Le savant ne peut pas s'appuyer sur les traditions religieuses. C'est l'homme. Et dans le cas, le médecin qui s'appuie là-dessus. Oui, nous n'y pensons pas assez, mais de fait, dans nos activités différentes, de temps en temps, chrétienne, la foi, la philosophie, et puis les sciences. Tout ça cohabite en nous. Et ce que je vous disais, les sciences modernes, alors elles sont partielles. Alors je reviens à mon cher professeur, il me mettait ça. Je veux faire, du reste je voulais étudier l'évolution d'une façon précise. Il faut le faire une fois dans sa vie. Faire l'enquête, soi-même, pour avoir quelque chose de net là-dessus. Alors j'ai lu tout le bouquin. J'ai lu la préface. Évidemment, je n'aimais pas du tout le titre. Doctrine. Non, ce n'est pas une doctrine. Ni théologique, ni philosophique. Donc il ne reste plus grand-chose. La pauvre préface, comprenez? Et quand on est en face de ça, c'est le fameux problème d'Aristote. Platon et la vérité, je les aime tous les deux, mais la vérité plus encore. Ça, c'est très beau. Là, c'était Charles de Coninck et la vérité, je les aime tous les deux, mais la vérité plus encore. Si je ne suis pas d'accord, je dis que je ne suis pas d'accord. Et je donne les raisons. Faites critique. Alors j'ai commencé mon enquête. Tous les arguments qu'il donnait au point de vue scientifique. J'ai été voir un jeune professeur à Fribourg, puisque j'étais à Fribourg, c'est l'avantage de Fribourg, petite université, je pouvais voir quand même des gens compétents dans les différentes matières. Assez vite, puisque c'est des amis. Alors je vais voir l'histologue, je me souviens, c'est un Alsacien, un homme très chic. Je dis, qu'est-ce que c'est que l'évolution pour vous? J'ai une petite enquête. Oh, l'évolution pour moi, en tant qu'histologue. En tant qu'histologue, que voulez-vous, je n'ai jamais constaté. Pas objet d'expérience pour moi, non, non, ah non, en tant qu'histologue, pas du tout. Vous savez, l'évolution, c'est une vue de l'esprit. Je me souviens très bien, je dis, c'est une vue de l'esprit, c'est une vue philosophique. Ah, je dis, c'est la philosophie. Parce que les philosophes disent que ça repose sur la science. Et vous, en tant que savant, vous dites que ça repose sur la philosophie. Alors, ça repose sur quoi? Mettez la pouce à l'oreille. Parce que je connaissais des gens comme ça, vous savez, qui... Avec des savants sont philosophes, avec des philosophes sont savants. Ça existe, ça. Il y a même des animaux qui sont comme ça de couleur, ils changent de couleur selon les murs. Alors c'est assez curieux, ça fait partie d'un certain régime de choses. Sauf qu'on ne peut jamais les attraper, voulez-vous, c'est impossible. Puis j'ai continué l'enquête. Je me suis vu que c'était très très difficile à préciser exactement. Quand vous voulez vraiment analyser ce que c'est que l'évolution, vous vous posez la question, est-ce une vue de l'esprit reposant sur une sorte d'intuition? Ayant des points, des données, et comme me disait un de ces savants, l'évolution, vous comprenez, ça a un immense avantage. C'est que ça permet d'envelopper une quantité de faits. Chacun, pris par lui-même, oui, intéressant, mais on ne peut rien conclure. Toute une série de faits, on les enveloppe par une vue de l'esprit, puis on dit que c'est une théorie. Théorie de l'évolution. Théorie de l'évolution parce que des quantités de faits. Mais si on regarde de près, on voit qu'aucun de ces faits ne justifie l'évolution. C'est l'ensemble. Très curieux, ça. Et c'est très intéressant. Regardez, c'est très intéressant de se poser vraiment le problème au plan critique. En tant que philosophe, se poser le problème. Quand on pousse jusqu'au bout, on s'aperçoit que de fait, c'est très difficile de préciser exactement. On voit très bien ce que ça signifie. On voit très bien les manières différentes de regarder l'évolution. Et on voit très bien comment Teilhard, lui, essaie de faire une théologie de l'évolution, une grande vision. C'est grand, Teilhard, c'est grand. Est-ce que c'est vrai? C'est autre chose. C'est grand. Tout un aspect poétique, tout un aspect mystique. Il y a de la grandeur, mais qu'est-ce que ça correspond au point de vue de la vérité, des faits très difficiles. De sorte que je ne peux pas baser une théologie sur l'évolution. Je ne peux pas. Je ne peux pas baser une philosophie sur l'évolution. Je peux laisser des savants qui, au terme de leur science, veulent donner une grande synthèse. Alors, ils se servent de l'évolution. Et au fond, ce n'est pas philosophique. Ce n'est pas philosophique. C'est une espèce de grande vision, englobante, belle, intéressante, ça peut éveiller les esprits, mais très très curieux, hein. Très très curieux, hein. Être très attentif là-dessus. Si vous retrouvez ce livre d'Otis, lisez-le, c'est intéressant, et vous verrez tout de suite que de fait, non, c'est pas une doctrine, c'est pas une doctrine. Doctrine théologique, ça repose sur la révélation. Une doctrine philosophique, ça repose sur des principes. Il n'y a pas de principe. Il n'y a pas de principe. C'est une vue de l'esprit. Une vue de l'esprit qui encadre un certain nombre de faits. Est-ce que ces faits pourraient être expliqués autrement? Vous savez bien, certains chercheurs essaient de l'expliquer autrement. Il y a les évolutionnistes et les anti-évolutionnistes. C'est intéressant, du reste, de voir ça. Et il est évident que les dernières découvertes biologiques reposent tout le problème. C'était ce que Rostand disait à la fin de sa vie. Je le sais, parce que je connaissais très bien un des grands amis. Et il me racontait ces entrevues qu'il avait quand on lui a mis la découverte du premier instant, premier moment de la conception pour l'homme, l'être nouveau à son chiffre biologique. On ne voit pas très bien comment l'évolution peut avoir encore lieu. Parce que l'évolution était beaucoup facile au plan embryonnaire, on comprend très bien. Au plan embryonnaire, on comprend que c'est très souple. Et donc, selon le contexte du milieu, selon certaines possibilités, on peut faire croître, arrêter la croissance, tas de choses. On sait très bien toutes les manipulations génétiques. Mais si le chiffre biologique est donné dès le point de départ, du moins dès la conception, on ne voit plus. Donc ça repose une question. On va reposer le problème, vous allez le voir. Je connais beaucoup de savants qui se le reposent très sérieusement. En disant, il suffit de voir qu'on a essayé de mettre ce cheval de bataille contre la création. Darwin. Contre la création. De sorte que, je dirais, aujourd'hui, quand on essaie d'étudier l'évolution de près, on voit qu'il n'y a pas de solution. On a écrit un article terrible contre Teilhard, et c'était Rostand. C'était dans le Figaro littéraire de ce temps-là. Un article terrible. Parce que Rostand pouvait parler librement. Et c'était intéressant parce que c'était quelqu'un qui acceptait l'évolution. Alors qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai retenu sa critique. Il a dit, pour Teilhard, on est en face d'un pan-évolutionnisme. L'évolution veut tout prendre. Et c'est pour ça qu'elle se dit théologique. Et Rostand se posait le problème, l'évolution est-elle théologique ? Non. Peut-on parler d'un pan évolutionniste ? Non. L'évolution se situe au niveau de la vie biologique. Et uniquement au niveau de la vie biologique. On ne peut pas la transporter du côté physique. Et on ne peut pas la transporter du côté de l'intelligence. Il y a deux limites. J'ai trouvé que c'était la critique ad hominem la plus intéressante. Parce que faite par quelqu'un qui connaissait bien le problème de l'évolution et qui voyait qu'on ne pouvait pas généraliser. Vous voyez, nous retrouvons ce que je vous disais tout à l'heure. La science regarde le devenir, elle est toujours partielle. Même l'évolution est partielle. Elle ne regarde qu'un aspect du réel, la vie biologique. Tandis que si on veut parler de l'origine, il faut dépasser le point de vue du devenir et regarder l'être. Ce que ne faisait pas évidemment Rostand, c'est sûr, mais au moins il montrait les limites. Il faut se placer du côté de l'être. Et c'est là où on en arrive tout de suite. Seule une philosophie réaliste qui implique une métaphysique peut regarder en face le problème de la création. C'est ça que je voudrais vous montrer avec vous. Je ne dis pas que c'est ma thèse, n'est-ce pas ? Mais ça peut prendre la tournure d'une thèse pour que ce soit plus facile. Mais j'en suis absolument sûr. Pour moi, c'est évident. Seule une philosophie réaliste, et je dis bien, il faudra préciser ce qu'est une philosophie réaliste. Seule une philosophie réaliste qui s'achève dans une philosophie de l'être, une métaphysique, peut parler du problème de la création. Toutes les autres philosophies ne peuvent pas. Mais si c'est vrai, c'est extrêmement intéressant. Vous voyez, ça donne un gros, un beau coup de balai à des quantités de choses. C'est le bulldozer métaphysique qui passe et qui emporte des grosses pierres, qui emporte tout et puis qui laisse tomber. Voilà, et on trace la route. J'ajoute tout de suite, hein, puisqu'on est en théologie, seule une philosophie réaliste impliquant une métaphysique peut coopérer à la foi chrétienne, pour réaliser une théologie scientifique. Ce sont deux grandes affirmations qui sont des affirmations qui doivent devenir évidentes. Ce ne sont pas des conclusions. C'est impliqué directement dans ce qu'est une philosophie réaliste qui aboutit à la métaphysique. Et c'est impliqué directement dans la foi chrétienne. Alors, je vais vous montrer ces deux aspects-là. Pas entièrement ce soir, parce que ça nous mènerait un petit peu trop tard. Mais on va commencer, puis vous y rêverez, et demain on continuera. C'est l'avantage du rêve, vous savez, ça prépare. C'est un certain bulldozer. C'est particulier, pas toujours bien dirigé. Mais c'est quand même un peu loser. Alors, seule une philosophie réaliste peut parler du problème de la création. Qu'est-ce qu'on appelle une philosophie réaliste? Une philosophie réaliste, c'est une philosophie qui consiste à dire que nous ne pouvons progresser dans la connaissance que grâce à l'expérience. L'expérience est première dans le point de départ de toute philosophie. Expérience externe, expérience interne. Maintenons les deux. En comprenant que toute expérience interne ne pourra être parfaitement utilisée que dans la mesure où elle impliquera une expérience externe. Je précise, l'expérience interne, c'est le sentiment, la conscience que vous avez de connaître, de suivre un cours. Vous suivez un cours, vous dites, oh, j'ai rien compris. C'est une expérience interne. Elle est négative, mais c'est quand même une expérience interne. Oh, c'était extraordinaire. J'ai découvert quelque chose, j'y avais jamais pensé. C'était si simple pourtant. Expérience interne, positive. J'aime. Expérience interne. J'aime Arthur. Hein, ça peut arriver. J'aime Arthur. Alors, Arthur, vous comprenez, c'est quand même quelqu'un, Arthur. C'est quelqu'un qui j'ai donné la main. Non, je sais, il existe. Mais ton Arthur, tu l'as idéalisé, ton Arthur. Et au fond, tu aimes un idéal. Il n'est pas comme ça du tout, Arthur. Tu l'as jamais vu, tu l'as jamais regardé. Est-ce que tu as parlé avec lui? J'ai une drôle de voix, tu sais. Oh, tu peux l'aimer. À dire oui, je le connais. J'ai travaillé avec lui. Je le connais. Je lui ai donné la main. Je sais bien quand je lui donne la main qu'il est quelqu'un. Vous voyez, donner la main. Expérience externe, le toucher. Expérience interne, très vite, elle idéalise. C'est vrai, quand j'aime quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un une fois dans ma vie. Ça m'a fait un très gros choc. J'ai trouvé extraordinaire son intelligence, et puis son visage, ses yeux. Ça dépend sur quoi on est impressionné devant. Rentrer une fois, on était obligé de se séparer. Mais j'ai tout le temps rêvé, je continue de rêver. Vous voyez, vous avez idéalisé. L'imagination, c'est une expérience interne. 20 ans après, vous le retrouvez. C'est plus ça du tout. Qu'est-ce qu'il a fait, Arthur? Ah, c'est vraiment Isidore. C'est plus du tout Arthur. C'est tout à fait autre chose. C'est plus du tout Arthur. On avait pensé, ouais, il y a 20 ans, oui, il m'a raconté tout ce qu'il avait fait. Pas reconnu du tout. Mais ça arrive, ça. Alors on dira que c'était déception. Mais non, c'est une remise dans la réalité. C'est pas une déception, c'est une remise dans la réalité, tout simplement. Vous aviez idéalisé votre Arthur, il n'a jamais existé. Mais vous avez eu un choc. Et celui qui va avoir le coup de foudre. Le coup de foudre, peut-être, il est donné dans l'écriture. Hein. Jacob. Coup de foudre. Pour Rachel. Alors lui, il ne faudra pas 20 ans, on va la retrouver, mais il sera 7 ans. Hein. Mais elle restera dans le coin. Donc on pourra quand même comprendre qu'elle est toujours la même. Et que c'est bien elle. Oui, deux expériences, internes, externes. Et l'expérience externe me fait toucher toujours la réalité existante. C'est ça le propre de l'expérience externe, grâce au toucher, grâce à la vue. C'est la réalité externe. Et l'expérience interne, c'est ce que je porte de cette première expérience. C'est toujours une première expérience externe. Mais quand cette expérience externe n'a pas pu se répéter, ou pour une raison ou pour une autre, il y a une séparation, alors l'expérience interne grandit. L'imagination, la mémoire, l'affectivité. Je regarde son image, sa photographie. J'entends parler les lettres. Ah, c'est extraordinaire. Je devine. Il est telle délicatesse qu'il ne dit jamais ce qu'il pense. Et c'est pour ça que je devine exactement ce qu'il pense. Vous voyez, et c'est comme ça que ça se fait. Vous comprenez que petit à petit, j'idéalise. Je me forge. C'est très important de regarder ces 200 expériences. Eh bien, la philosophie réaliste part de l'expérience externe pour découvrir ce qu'est la réalité. Mais la réalité qui intéresse le philosophe, c'est l'homme. C'est bien Arthur, mais l'homme en Arthur. L'ami regarde Arthur, et le philosophe regarde l'homme en Arthur. Et il cherche à comprendre ce que c'est que l'homme. Dans toutes ses dimensions. C'est le propre de la philosophie. Il part de l'expérience de la philosophie réaliste. Il regarde l'homme et il découvre l'homme progressivement. Et c'est très intéressant, ça. Vous comprenez bien qu'on arrive progressivement, dans une démarche progressive, à découvrir les six grandes dimensions de l'homme. Parce que l'homme a six dimensions. En réalité, il y en a sept. On passera du chiffre 6 au chiffre 16, heureusement. N'est-ce pas ? Pour ne pas rester sur 6. Parce que vous connaissez ce qui est dit dans l'Apocalypse, hein ? La bête de la terre, elle a le chiffre de l'homme. 6, 6, 6. C'est assez curieux, hein ? Ça, c'est l'Apocalypse, révélation. C'est la foi qui dit ça. Au plan philosophique, je pars de l'expérience et je découvre les grandes expériences de l'homme. Je commence par philosopher sur le travail. Je crois que toute philosophie réaliste doit commencer par philosopher sur le travail. Qu'est-ce que c'est que l'homme travailleur ? Qu'est-ce que c'est que le travail ? C'est très important aujourd'hui. Je ne dis pas ça à cause du marxisme. Je dis ça en droit. Pourquoi ? Parce que l'expérience du travail, c'est l'expérience majeure de l'homme. Comptez le nombre d'heures que vous avez travaillé, que vous, le nombre d'heures de travail pendant votre vie. C'est énorme. Normalement, c'est plus que le nombre d'heures de sommeil. Normalement. Il y a toujours des exceptions. Mais normalement, c'est le nombre d'heures de travail est plus grand. Et le travail me met en contact avec la matière de l'univers. Transforme cette matière. Première expérience, le travail. Deuxième expérience, l'amour d'amitié. Troisième expérience, la coopération. Trois grandes expériences qui sont la pyramide de base de toute philosophie réaliste. Le travail, l'amour d'amitié et puis la coopération. Facile. Je me souviens, encore une petite histoire, mais comme il est tard, c'est bien. Je prêchais dans un Carmel. Carmel de Limoges. Et alors on me dit, à midi, ça ne vous dérange pas, il y a plusieurs prêtres ouvriers qui viennent régulièrement ici prendre leur repas. Ça ne vous dérange pas de prendre votre repas avec eux? Je ne dis pas du tout, au contraire. Alors, première question de ces bons pères ouvriers, de ces bons prêtres ouvriers. Vous êtes dominicain, qu'est-ce que vous faites ? Je dis, j'enseigne. Ah, quoi ? La philosophie. Ah, la philosophie. Quelle philosophie ? À ce moment-là, je dis, mais vous, quand on ne veut pas répondre, il faut réinterroger. C'est le Seigneur qui l'apprend comme ça. Vous réinterrogez. Je dis, vous êtes quoi ? Prêtre ouvrier. Ah, pourquoi ? Ben, pour connaître ce que c'est que l'ouvrier. Je dis, bien moi, je suis philosophe pour connaître ce que c'est que l'homme. Ah, vous êtes philosophe pour connaître l'homme ? Oui, c'est ma seule préoccupation. Parce que vous ne pouvez pas connaître vraiment l'ouvrier si vous ne connaissez pas ce que c'est que l'homme. Oui, parce que l'ouvrier, il n'est pas tout le temps ouvrier. Un ouvrier qui est heureux en ménage travaille différemment qu'un ouvrier qui est malheureux en ménage. Un ouvrier prêtre travaille autrement qu'un ouvrier marié. Je vais continuer, vous voyez. Poser comme ça des petits problèmes. Il a dit, mais alors, comment connaître l'homme? Et par ses grandes expériences, le travail. Il y a le travail en usine, il y a le travail artisanal, puis il y a le travail intellectuel. Moi, je suis un travailleur. Je suis un prêtre ouvrier, puisque j'enseigne dans une usine qui s'appelle l'université. Je suis un travailleur. D'une autre façon que vous, mais c'est aussi un prêtre travailleur. Et là, j'ai expliqué les trois grandes expériences, travail, amour d'amitié. Alors, il m'a dit, mais c'est très intéressant cette philosophie. C'est très très intéressant. Si j'avais le temps, je viendrais. Je vous invite. Je serais très heureux parce que vous passeriez de la connaissance de l'ouvrier à la connaissance de l'homme. Ce serait très peut-être bénéfique pour l'ouvrier. Parce que ça rappellerait que l'ouvrier doit être un homme, comme le patron doit être un homme, pour qu'il soit parfaitement ouvrier. Et alors, quand il avait vraiment accepté ce que c'était que cette philosophie de l'homme, j'ai dit bien, vous voyez, ça c'est la philosophie de saint Thomas. Revue et corrigée. Mais c'est la philosophie de saint Thomas. Et je vous aurais dit que j'enseignais la philosophie de saint Thomas. Vous auriez dit, vieille baderne. Tandis que si je vous dis, j'enseigne la philosophie à partir de l'expérience de l'homme, et que la seule chose qui m'intéresse, c'est l'homme, ça vous intéresse. Et une philosophie réaliste part de l'expérience et regarde l'homme. Trois dimensions dans l'homme. Le travailleur, celui qui est capable d'aimer, celui qui est capable de vivre en communauté, qui coopère. Il faut avoir le sens de la coopération et de la solidarité pour vivre en communauté. Et quand on n'aime pas vivre en communauté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprendre le sens de la coopération. Il faut reprendre le sens de la solidarité dans la coopération. Alors à ce moment-là, on s'aperçoit que vivre en communauté, c'est pas vivre juxtaposé les uns à côté des autres. Il n'y a rien de plus fatigant que de vivre juxtaposé les uns à côté des autres. Et très facilement, une communauté vous fatigue parce qu'on vit en juxtaposition. Et on voudrait être seul. Alors on rêve du désert. Plutôt que de comprendre ce que c'est que de vivre en communauté. C'est très important, ça, de reprendre le sens réaliste de la communauté, la coopération. Et puis, une fois qu'on a ces trois dimensions-là, on...